Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour deux heures d'infos et à la une, premier coup dur pour les Bleus, c'est l'image du jour, Kylian Mbappé au sol, entouré par le staff de l'équipe de France à 4 jours de France-Australie, premier match du mondial pour les hommes de Deschamps. Le jeune attaquant a dû quitter l'entraînement, visiblement touché à la cheville après un choc avec son coéquipier Adil Rami. De rage, il a jeté sa chasuble. Alors, petite frayeur ou gros souci, dans RTL Soir, nous serons à Istra, au camp de base des Bleus, où la journée s'annonçait pourtant tranquille. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Et à la une du 18h.
Une prise d'otage en cours en ce moment même dans le 10e arrondissement de Paris. Un homme est retranché dans une entreprise. Il retient au moins 2 personnes, dont une femme enceinte. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Emmanuel Macron s'exprime enfin sur l'Aquarius. La France n'a pas proposé d'accueillir le bateau humanitaire, mais dénonce le cynisme et l'irresponsabilité des Italiens. Indignation jusque dans la majorité. Certains dénoncent la politique de l'autruche.
Et à 18h20, la réponse à ces critiques du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, invité de RTL Soir.
À suivre également, les passagers du RER B privés de train à cause des intempéries. Retour à la maison pour Donald Trump après sa rencontre avec Kim Jong-un. L'accord signé ce matin ne convainc pas grand monde. Et puis, nous avons les moyens de savoir si vous êtes bourré.
Ah oui ?
Uber mise sur l'intelligence artificielle pour fliquer ses clients. Attention à vous. Les courses à Nantes, il fallait jouer le 8, le 14, le 11, le 13 et le 16. La bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,38% à 5453 points.
À 18h25, direction les coulisses de l'actualité. Foot toujours, Zidane, Barthez, Djorkaeff et les autres. Comme à la grande époque, les Bleus de 98 rechaussent les crampons ce soir. On vous amène en coulisses du match anniversaire des 20 ans. 18h30, Alain Duhamel et ce soir, après l'accord Trump-Kim Jong-un, vainqueur et vaincu. 18h35, il a passé 62 jours seul, sur et sous la banquise. Le plongeur aventurier Alban Michon est de retour au chaud. On va débriefer ensemble cette incroyable expédition au bout du bout du bout du beau monde, tout à l'heure sur RTL. 19h15, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
On va faire un point sur les intempéries tout à l'heure, mais pour demain, ça s'arrange.
Ah ouais, ça c'est la bonne nouvelle.
Comme vous dites, ah ouais.
Non, mais c'est important. Ça fait trois semaines qu'on était dans la même masse d'air avec les mêmes conséquences. D'ailleurs, là encore ce soir, de fortes averses dans le sud, mais demain, tout ça va se calmer. Retour de l'anticyclone. Cet anticyclone va chasser cette masse d'air très instable. Résultat, on va retrouver un temps plus sec, plus ensoleillé, plus stable. Fini ces fortes précipitations. Bon, il en restera un peu encore du côté des Pyrénées ou encore sur les Alpes, mais globalement, retour d'un temps sec et ensoleillé. Le tout avec des températures à peu près de saison, un peu fraîches le matin, 10 à 15 degrés, mais l'après-midi, on sera entre 20 et 23 degrés dans la moitié nord et de 24 à 26 dans le sud.
Ouf, à tout à l'heure, Louis Baudin.
RTL Soir.
Et avant de prendre des nouvelles de Kylian Mbappé, nous allons donc dans le 10e arrondissement de Paris avec une prise d'otage en ce moment même, Isabelle.
Oui, un homme est retranché dans les locaux d'une entreprise. Il se dit armé et retiendrait au moins 2 personnes. Guillaume Chies, vous êtes sur place pour RTL. Tout le quartier est bouclé, bien sûr.
Ouais, il y a environ 2 heures, cet homme est entré dans l'immeuble du 45 rue des Petites Écuries. Selon les premiers témoignages, il portait une arme de poing et un jerrycan à la main. Une femme a donné l'alerte et depuis, l'homme est retranché avec plusieurs personnes à l'intérieur des locaux d'une entreprise au rez-de-chaussée. Pour l'heure, le preneur d'otage n'a pas été identifié. En revanche, les forces de l'ordre ont établi un contact avec lui. Ses revendications sont floues. Il souhaiterait remettre un texte à l'ambassadeur d'Iran. À noter qu'il n'y a pas de notion terroriste derrière cette prise d'otage. Les nombreux hommes de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, ont encerclé l'immeuble, prêts à intervenir si l'ordre devait être donné. Mais pour le moment, nous en sommes au stade des négociations. Les sapeurs-pompiers, également très nombreux sur place, viennent d'ailleurs de prendre en charge une victime qui a été frappée au visage à coups de clé à molette.
Merci Guillaume Chies, vous nous tenez au courant évidemment de la tournure que prend cette prise d'otage tout au long de RTL Soir. On part maintenant, comme je vous le promettais, en Russie, à 2 jours du Mondial, et on s'inquiète pour Mbappé.
Le jeune attaquant s'est blessé à l'entraînement cet après-midi. Il est touché à la cheville. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL sur ce Mondial. Alors Mbappé a quitté l'entraînement plutôt furieux. Que s'est-il passé exactement ?
Oui, bien au cours de cet entraînement public, joyeux, c'est lors d'une opposition assez classique, à 7 contre 7, que sa cheville gauche a été touchée sur un choc avec le défenseur Adil Rami. L'équipe médicale du docteur Le Gall et notamment le kiné des Bleus, Christophe Geoffroy, ont immédiatement traité la cheville douloureuse. Kylian Mbappé est alors revenu quelques instants sur le terrain, mais sans succès. De lui-même, il a pris la décision de rejoindre les vestiaires en jetant sa chasuble d'entraînement de dépit. Cheville bandée, il a pu rejoindre le quart des Bleus sans béquille. On attend maintenant le résultat des premiers examens et surtout une communication officielle pour savoir précisément de quoi souffre Kylian Mbappé, entorse sérieuse ou simple choc, ce qui permettra de déterminer si sa participation à France-Australie samedi est d'ores et déjà compromise.
En Russie, donc, Philippe Sanfourche pour RTL. Là aussi, Philippe, vous nous tenez au courant donc de l'état de santé de Kylian Mbappé tout au long de RTL Soir.
Premier coup dur donc pour les Bleus, d'autant que Sidi Bé et Umtiti sont incertains pour le premier match de l'équipe de France samedi contre l'Australie. Et puis notez qu'en conférence de presse, Antoine Griezmann n'a pas voulu répondre aux questions sur son avenir à l'Atlético Madrid. Il est sollicité, on le sait, par le FC Barcelone.
Il aura fallu deux jours pour qu'Emmanuel Macron sorte enfin de son silence sur l'Aquarius, et c'est pour mieux s'en prendre à l'Italie.
Le chef de l'État a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien qui a refusé d'accueillir l'Aquarius et les quelques 600 migrants qu'il transporte. À l'inverse, le président a salué le courage de l'Espagne qui a décidé de laisser accoster le bateau humanitaire. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian appelle l'Italie à revoir sa position. Des déclarations un peu tardives qui font réagir jusque dans les rangs de la majorité. Écoutez cette réaction de la députée de la Manche, Sonia Crimi.
C'est encore pire au niveau de la France parce qu'on fait la politique de l'autruche. Quand on laisse errer 629 femmes avec 13 mineurs, 7 femmes enceintes, et on dit alors c'est la responsabilité de qui ? Attendez, on va voir ensemble, attendez, on va vérifier, c'est le port, c'est pas le port. Mais on est où là ? On est où ? Ce n'est plus une question juridique de droit maritime ou autre. C'est une question morale et une question éthique. Point. Tous les ministres. Je n'ai pas entendu un ministre aujourd'hui qui a une réponse à l'auteur de ce que nous avons fait là. Voilà.
Sonia Crimi, donc au micro RTL de Jacques Serret. Justement, Benjamin Griveaux est le porte-parole du gouvernement. Il sera avec nous à 18h20. On lui posera la question directement.
Et le Premier ministre Édouard Philippe assure de son côté que la France est prête à aider l'Espagne dans l'accueil des migrants. L'Aquarius est censé accoster dans le port de Valence, mais pour l'heure, il se trouve au large de Malte. Julien Fautra, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Valence. Au large de Malte, cela veut dire au moins 4 jours de traversée.
Oui, le transfert est en cours. L'association SOS Méditerranée le confirme. Plusieurs centaines de rescapés quittent l'Aquarius vers deux bateaux italiens, un navire de la marine et un bateau des gardes-côtes. Direction Valence, en Espagne, 3 à 4 jours de traversée, 1300 km, des conditions climatiques difficiles. Mais Valence, les associations s'y sont résolues, est le seul port dit sûr, comprendre le seul avec lequel les conditions légales sont en voie de résolution. Le plan prévoit le transbordement de 500 des 629 migrants sauvés en mer et présents sur l'Aquarius. Des vivres ont été apportés ce matin par les autorités maltaises afin que les exilés très affaiblis tiennent le choc du voyage. 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge, des mineurs isolés. Tous vont donc dans les prochaines minutes partir vers les côtes espagnoles où ils arriveront en fin de semaine. Les autorités et les associations ici sortent tout juste d'une réunion sur ce point. Quelle modalité, quel financement, quel encadrement ? Une conférence de presse va débuter dans quelques minutes. Des dizaines de médias sont présents. Objectif, prévoir l'accueil des 629 rescapés de la Méditerranée.
Julien Fautra, l'envoyé spécial de RTL, donc à Valence.
RTL Soir, 18h08.
On va marquer une pause et dans un instant, trafic interrompu sur la ligne B du RER. L'eau a tout emporté.
18h10, RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel, et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et en région parisienne, les usagers du RER B vont donc être privés de train pendant quelques jours au moins, Isabelle.
Oui, ce matin à l'aube, un talus raviné par la pluie s'est effondré entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et Courcelles-sur-Yvette dans l'Essonne. Une rame de RER a déraillé, elle s'est en partie couchée. 7 personnes ont été légèrement blessées, dont une femme enceinte. Raphaël Vantard, vous êtes sur place dans l'Essonne pour RTL. La remise en état risque de prendre du temps.
Effectivement, un hélicoptère a d'ailleurs survolé ces voies de RER une partie de l'après-midi pour constater l'étendue des dégâts. Sur place, à côté des wagons couchés sur le côté des voies, le ballast mais aussi le remblai qui porte les voies ferrées, tout cela s'est effondré. Les rails se sont retrouvés presque posés dans le vide. C'est ce qui a provoqué le déraillement de la première rame de RER ce matin à Courcelles. Avant tout travaux donc, les équipes de la RATP doivent évaluer les dégâts mais aussi la stabilité du sol fragilisé par les nombreuses intempéries. Ce soir, tous les rescapés de ce RER ont pu regagner leur domicile. Aucun blessé léger n'est hospitalisé, mais certains restent évidemment marqués par ce déraillement de train. Dominique était ce matin dans ce RER.
J'étais assis sur mon siège et j'étais quand même déplacé d'un siège. On a senti un grand bruit et ensuite le noir total. En sortant, en se mettant sur les voies, on s'est retourné, on a vu le wagon couché, on a dit là on a eu de la chance. Parfois on se dit, on se prend la tête pour des futilités dans la vie de tous les jours et puis parfois ça peut aller vite quoi.
Ce soir et donc pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, aucun RER ne circule entre Saint-Rémy-les-Chevreuse et Orsay. La RATP met à disposition des voyageurs 25 bus de remplacement. La ligne B du RER transporte chaque jour plus de 900 000 personnes du sud de la région parisienne à l'aéroport Charles de Gaulle au nord de Paris.
Dans l'Essonne pour RTL, Raphaël Vendard.
Un trafic interrompu donc sur la ligne B. Toujours des difficultés ailleurs à cause de la grève à la SNCF. Pour demain, prévoyez en moyenne 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. Et ensuite eh bien, la CFDT Cheminots appelle à suspendre la grève pendant les épreuves du bac dans les trains du quotidien, c'est-à-dire les TER et les RER. 2 journées sont concernées lundi prochain, premier jour d'épreuve, et aussi le vendredi 22 juin. Condamnation confirmée en appel pour Michel Néré, l'ancien superflic de la PJ de Lyon. Il écope de 2 ans et demi de prison ferme pour corruption, avec en plus 1 an et demi de sursis. Il va demander l'aménagement de sa peine.
Vous entendrez Michel Néré tout à l'heure à 19h. Chacun est rentré chez soi après le sommet entre Trump et Kim Jong-un. Tout commence en fait maintenant.
Hein. Les deux dirigeants se sont rencontrés ce matin à Singapour. La photo était parfaite. Une poignée de main pour l'histoire, une signature officielle sous l'œil des caméras. Mais sur le papier, bien peu de choses en fait. La déclaration commune reste très vague. Il est question de dénucléariser la péninsule coréenne, mais sans plus de détails et sans calendrier. Philippe Corbet, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Donald Trump crie victoire, mais les Américains sont assez sceptiques.
Oui, y compris dans son camp, le sénateur républicain Lindsey Graham, le premier à avoir évoqué publiquement un prix Nobel pour Trump sur CBS, il ne cache pas son inquiétude.
La seule chose que je rejetterais avec véhémence, ce serait le retrait de nos troupes de Corée du Sud. La Chine essaye de manipuler le président Trump à travers la Corée du Nord. Et le but de la Chine depuis des décennies a été de nous faire quitter l'Asie. Si on retire nos troupes et que ça fait partie du deal, je ne peux soutenir ce deal, ce serait un mauvais deal.
Par ailleurs, le secrétaire d'État américain avait dit que l'objectif était d'obtenir une dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable. On en est loin. L'engagement signé ne fait que rappeler une promesse de dénucléarisation comme dans les années 90, comme dans les années 2000. Et les présidents américains avaient jugé que ce n'était pas suffisant pour rencontrer les dictateurs nord-coréens. Rappel sur CNN de David Axelrod, ancien conseiller politique d'Obama.
Je félicite le président de pousser la diplomatie, surtout que nous semblions foncer vers la guerre il y a quelques mois. Mais ce n'est pas significatif tant que ça ne produit pas d'actes tangibles et vérifiables de la part des Nord-Coréens. Pour l'instant, c'était un grand show télé.
Et si Trump contraint vraiment la Corée du Nord à la dénucléarisation, ça rappellera l'accord sur le nucléaire iranien signé par Obama qui vient de déchirer.
Merci Philippe Corbet aux États-Unis donc pour RTL. Et puis Uber est décidément bien curieux. Il cherche à savoir si vous rentrez chez vous avec un coup dans le nez.
L'entreprise vient effectivement de déposer un brevet pour une technologie d'intelligence artificielle d'un type bien particulier. Elle est capable de détecter si vous êtes sous au moment où vous commandez une voiture. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Alors d'abord c'est bien indiscret et puis comment elle le sait si on a trop bu ?
Eh bien c'est l'application Uber installée sur votre smartphone qui vous trahira. Grâce à elle, la compagnie américaine récoltera des données qui, croisées entre elles, prouveront, paraît-il, que vous avez un petit peu trop forcé sur les boissons capiteuses. D'abord, en utilisant l'accéléromètre de votre téléphone, c'est le composant qui donne la position de l'appareil. Uber pourra étudier la façon dont vous tenez votre smartphone. Eh bien, si vous faites des mouvements incohérents, ce sera déjà un premier signe suspect. Si vous faites des fautes de frappe, si vous tapez lentement sur le clavier, si vous recommencez plusieurs fois, l'algorithme trouve sera très très louche, d'autant plus qu'il comparera avec vos précédentes utilisations de l'application quand vous aviez l'esprit clair. Et si en plus, il est tard, si vous êtes dans un quartier avec des restaurants et des bars, eh bien, c'est bon, vous entrez dans la catégorie des fêtards très avinés. Alors là, deux possibilités, soit votre course sera refusée, soit on vous enverra un chauffeur aguerri, spécialiste des clients pompettes, mais on ne sait pas si vous devrez alors payer un petit supplément, une sorte de pourboire.
Merci Sophie Jousselin. À tout à l'heure Isabelle, je vous rappelle qu'une prise d'otage est en cours dans le 10e arrondissement de Paris. On vous tient au courant de l'évolution de la situation tout au long de RTL Soir.